France Info.
Et bienvenue dans Les Informés, votre demi-heure de décryptage de l'actualité comme chaque matin sur France Info et comme chaque matin en votre compagnie Renaud Dely. Bonjour mon cher Renaud.
Bonjour Adrien.
Avec ce matin Stéphanie Despierres. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique à LCP. Bonjour Jean-Jérôme Bertolus.
Bonjour Adrien.
Éditorialiste politique à France Info Télé. Et bonjour Fanny Guinochet.
Adrien.
On vous connaît bien puisque vous êtes éditorialiste économie à France Info et on vous retrouve chaque matin à 7h50. Renaud, nous allons parler de politique et d'économie aussi, avec une première question. L'économie française est-elle aussi mal en point qu'on pourrait le penser?
Et aussi mal en point notamment que la tournée d'adieu en quelque sorte de François Bayrou nous l'a laissé augurer, puisque l'ex-premier ministre a fait beaucoup de médias avant de quitter Matignon pour expliquer à quel point la situation des finances publiques était dramatique et que la France était en quelque sorte au bord du gouffre. Cette situation des finances publiques n'est pas rassurante en effet, mais si une hirondelle ne fait pas le printemps, une note de l'INSEE ne fait pas forcément l'été indien, certes, mais il y a quand même eu une petite bonne nouvelle pour l'économie française hier avec cette note de l'INSEE qui envisage finalement une croissance un peu plus élevée qu'attendue, 0,8%, c'est pas mirifique mais c'est mieux qu'attendu, c'est mieux notamment d'ailleurs que l'Allemagne hein, qui a plongé dans la récession. Un autre succès aussi de l'économie française, c'est l'inflation qui est ramenée à 1,2%, c'est d'ailleurs beaucoup mieux que la zone euro, ce taux d'inflation. Une inflation qui est d'ailleurs jugulée aussi en Europe, c'est ce dont se réjouissait ce matin François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, sur l'antenne de BFM Business.
L'inflation, elle est autour de notre cible de 2%. On est exactement à 2,1% aujourd'hui. Ça, je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. L'inflation, c'était le souci numéro un des Européens il y a encore 2 ans. On a réussi à vaincre l'inflation sans provoquer de récession. Alors après, l'environnement, évidemment, autour de nous est très instable.
Alors, l'inflation, ça va mieux, la croissance, c'est pas si catastrophique que ça, mais comme le souligne François Villeroy de Galhau, l'environnement, lui, et notamment l'instabilité politique, font planer une lourde incertitude sur la conjoncture économique, et puis, une nouvelle peut en cacher une autre, il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui peut tomber ce soir pour l'économie française, c'est la décision de l'agence Fitch qui pourrait dégrader la note financière de la France. Alors, comment se porte l'économie française et est-ce que c'est effectivement un point qui sera au cœur des négociations engagées par Sébastien Lecornu pour tenter de trouver un compromis budgétaire, en particulier avec la gauche?
Alors pour démêler le vrai ou faux, j'allais dire Fanny Guinochet, déjà, est-ce que l'instabilité politique, c'est ce qui pèse sur la croissance, c'est ce qui pèse sur l'activité, ou il n'y a pas que ça?
Alors, l'instabilité politique, oui, ça pèse. On l'a vu depuis un an, les investissements, par exemple, des entreprises ont beaucoup chuté. Je prends un an parce que c'était la dissolution de l'Assemblée nationale. Depuis ce moment-là, avec les changements de Premier ministre, à chaque fois, ce sont des investissements en moins, ce sont des embauches en moins, parce que les employeurs le disent tous, ils ont le pied sur le frein. Donc, ça pèse. Maintenant, effectivement, comme le rappelait Renaud, l'économie française se porte pas si mal. Mais il n'empêche, si on revient sur cette fameuse note de Fitch, hein, que l'on attend, qui tombera tout à l'heure, en mars, l'agence de notation, donc c'est une agence qui, on le rappelle, qui note notre dette, c'est-à-dire notre capacité, notre dette souveraine, notre capacité à emprunter sur les marchés obligataires, eh bien l'agence Fitch disait, bon, c'est pas si mal, mais attention, ce qui guette la France, c'est l'instabilité politique, les tensions sociales, parce que finalement, et on est en plein dedans, après la semaine qu'on a passée, parce que finalement ce que va noter Fitch, et il faut peut-être le rappeler, c'est la capacité de la France à rembourser son emprunt. Et si cette capacité-là, si les investisseurs sont rassurés de ce point de vue-là, bon, ils vont noter la France ou rester à l'identique. Si à force ils se disent bah, la France devient un pays de plus en plus instable politiquement, socialement et même du coup économiquement, eh bien on peut avoir quelques doutes et donc on va prêter à des taux beaucoup plus importants.
Alors Jean-Jérôme Bertolus, quand même, quand on entend le monde politique, a commencé d'ailleurs ces derniers temps par François Bayrou, on avait l'impression d'une situation assez noire, on se rend compte que c'est pas blanc, mais c'est plutôt gris, un peu foncé, mais qu'en fait, bon, la situation n'est pas si cataclysmique que ça.
Oui, c'est vrai que ça a été un petit peu étonnant de la part des dirigeants politiques de peindre une situation aussi catastrophique. Et je pense notamment aux propos d'Éric Lombard, le ministre de l'économie maintenant qui gère les affaires courantes, ouais, qui avait indiqué qu'il y avait un risque chez nos confrères de France Inter, qu'il y avait un risque que la France passe sous la tutelle du FMI. Et en tout cas, qu'il n'écartait pas cette hypothèse. Mmh. Et il a dû démentir ses propres propos quelques jours après, parce que c'était pas, il ne les a pas démentis en raison pour un message politique. Il l'a fait parce que les marchés commençaient à prendre peur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'il y a, en quelque sorte, les marchés, ils sont, alors comme vient de le dire Fanny, sensibles à l'instabilité politique, mais sensibles aussi au message qu'envoient les différents gouvernements. Or, c'est vrai que à la fois, il y a cette dette qui plane au-dessus de la tête des Français, mais c'est vrai, comme l'a rappelé Renaud, que bon, bah finalement, la note de l'INSEE dit que la situation économique est pas si terrible que ça. L'instabilité politique, oui, certes, mais il y a l'instabilité géostratégique dans le monde aussi.
Les droits de douane aussi.
Voilà, les droits de douane. Donc c'est un espèce d'ensemble, et il faut être clair. Je ne sais pas si Fanny sera d'accord avec moi, mais même si Fitch dégradait un petit peu la note ce soir, c'est-à-dire qu'on passerait pour les techniciens d'un double A à un A.
Bon. Technicien que vous êtes.
Non, pas du tout, même si j'étais journaliste éco pendant quelques années. Non, mais ce qui est vrai, c'est que ça ne changerait pas du tout la donne de la dette française. C'est-à-dire qu'on en... voilà. Il y a une espèce de détérioration progressive des taux d'intérêt auxquels emprunte la France, mais il n'y a pas comme ça une espèce de falaise.
Vous me forcez, Jean-Jérôme, à obtenir confirmation auprès de Fanny Guinochet. Les marchés, ils ont déjà
anticipé,
pris l'impact en quelque sorte de cette possible dégradation.
Ça fait une quinzaine de jours qu'ils voient déjà la situation politique depuis que François Bayrou a annoncé qu'il allait faire quelque part son harakiri. Hein. Les marchés, ils ont déjà un peu anticipé. D'ailleurs, on le voit, il y a eu beaucoup plus d'échanges avant le lundi dernier, qui était le vote de confiance, ou plutôt de défiance, qu'auparavant. Et aujourd'hui, pour le rappeler, la France est à un niveau, vous le disiez, hein, c'est à moins, c'est l'équivalent de 17 sur 20, bon, bah, si on descend un peu. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand même cette lente dégradation. Et par ailleurs, ça joue quand même, parce que je pense que dans le choix d'Emmanuel Macron de nommer rapidement un nouveau Premier ministre, on s'est dit, c'est un signal qu'il envoie, alors certes à la classe politique, aux Français, etc., mais c'est aussi un signal qu'il envoie au marché, de stabilité. En plus, il prend un proche de lui, qui va certainement faire une politique de continuité. En tout cas, il n'y aura pas de grande rupture, notamment vis-à-vis de l'économie, une politique pro-business.
Une politique de grande rupture, mais donc, Fanny, ça peut
Jean-Jérôme,
voilà, une rupture politique. Comme
alors après, ça, c'est autre chose. Mais pour les marchés, c'était plutôt un signal de... après, on voit bien qu'il y a quand même aussi une fébrilité, parce que, par exemple, là, aujourd'hui, Emmanuel Macron réunit des économistes à l'Élysée pour prendre quand même quelques conseils. Donc, c'est ce que me disaient un certain nombre d'économistes qui sont conviés aujourd'hui au près du chef de l'État pour dire, bon, quand même, qu'est-ce qu'il faut. Donc, on verra. Mais c'est vrai que ce soir, cette note, si elle se dégrade un peu, il ne va pas y avoir un électrochoc. Ça sera juste, on se dégrade un petit peu plus.
Stéphanie Despierres, avec cette bonne conjoncture, cette conjoncture moins mauvaise qu'on pouvait le craindre, est-ce que ce n'est pas aussi de nature à faire dire à ceux avec qui Sébastien Lecornu va devoir négocier, le Parti Socialiste, bon, bah, vous voyez, finalement, ce n'est pas catastrophique, donc peut-être que vous pouvez ajuster sur un certain nombre, que ce soit sur le montant de la réduction du déficit, ou les entreprises se portent bien, on peut peut-être les taxer un peu plus.
Bah, très clairement, le Parti Socialiste va s'en saisir pour peser dans les négociations. La gauche avait déjà beaucoup dénoncé les discours que estimait catastrophiste de François Bayrou, qui en effet a fait des ravages auprès des marchés, mais aussi auprès des Français. On voit qu'économiquement, la consommation ne redémarre pas, alors que la consommation, c'est vraiment normalement ce qui tire la croissance française. On voit que les Français, les taux d'épargne sont énormes. Donc ça montre bien, comme le disait Jean-Jérôme, que le message envoyé, c'est une question de confiance des marchés, mais aussi une question de confiance des Français. Donc là, c'est très clairement, ça va jouer dans les négociations. Après, est-ce que la gauche arrivera à convaincre les macronistes, et notamment Sébastien Lecornu, qui est un fidèle du président de la République, d'être vraiment dans la rupture et d'abandonner un des totems, peut-être la taxation des ultra-riches, on attend de voir.
Renaud Dely. Alors,
sur ce point, d'ailleurs, ce matin, Marc Ferracci, un ministre proche de surcroît de, d'Emmanuel Macron, qui est un macroniste
ministre de l'industrie,
qui est un macroniste pur jus, si j'ose dire, dit qu'il n'y a pas de tabou sur la question de la taxation des plus revenus, qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou sur ce point-là. Donc, on a le sentiment que ça peut commencer à bouger. C'est un peu, d'ailleurs, ce que commence à laisser entendre Matignon.
Et ça bouge aussi un peu au sein du groupe macroniste à l'Assemblée nationale.
Et ce qui est intéressant, justement, je reviens juste d'un mot sur cette note de l'INSEE. D'ailleurs, tout est dans son titre, en quelque sorte. Ce qui peut épargner à la lecture d'un document qui est quand même forcément un petit peu aride. Pas de confiance.
Comme vous y allez.
Pas de confiance, un peu de croissance. C'est-à-dire que la croissance, c'est un peu mieux qu'attendu, ce qu'on disait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de confiance. Pas de confiance des ménages, qu'il y a une vraie instabilité politique qui menace justement quand même sur la suite. Alors, ce qui est un peu mieux, on le disait, c'est la croissance, c'est l'inflation et c'est le chômage, d'ailleurs, qui ne s'envole pas, en tout cas, qui devrait être à peu près stable à la fin de l'année. Et ça, ça va forcément inciter la gauche et en particulier les socialistes à dire, bah voilà, il y a du grain à moudre, et deux, d'ailleurs, une purge, entre guillemets, de l'ordre de 44 milliards d'euros pourrait durer déficit tel que celle qui était annoncée par François Bayrou. Au contraire, ça risquerait, d'ailleurs, de casser le peu de croissance qui nous reste et de plonger le pays dans la récession. Donc, il faut faire un petit peu moins d'efforts pour réduire les déficits, et il faut peut-être faire un peu d'efforts en termes de pouvoir d'achat pour essayer de relancer la consommation.
Jean-Jérôme Bertolus, d'un mot.
Un tout petit mot par rapport à cette note de l'INSEE. C'est vrai que c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. En revanche, là où le verre est complètement vide, c'est le fait que la France est face à un mur d'investissement qu'on ne peut pas honorer, que ce soit en matière d'énergie, de relance du nucléaire, que ce soit en matière de transport avec un réseau ferré complètement très très vieux, que ce soit en matière de rénovation des écoles, etc. Ça veut dire que la conjoncture n'est pas si mauvaise que ça, mais la France n'a pas de possibilité d'investir pour l'avenir.
Stéphanie Despierres, je voulais vous entendre sur ce que vous avez commencé à évoquer, l'évolution des députés macronistes sur la fiscalité. Vous êtes journaliste parlementaire, vous travaillez au cœur du Parlement. Sur quoi ils se disent aujourd'hui prêts, ces députés, à avancer, même si ça ne dépend pas que d'eux, mais quand même?
Alors, sur la taxe Zucman, ils sont très nombreux à dire que c'est pas possible, qu'elle est caricaturale, et que notamment ça portera ça risque de porter sur le capital, donc ça risque d'empêcher les entreprises d'anéantir de l'activité économique. En revanche, ça fait plusieurs mois que certains, au groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, réfléchissent, et moi, depuis le mois de mai, depuis le mois de juin, certains disent de toute façon, on sait qu'il va falloir à un moment ou à un autre lâcher un peu du lait sur la taxation des ultra-riches, et ils s'y préparent, ils sont en train de réfléchir. Certains avaient pris le taureau par les cornes en disant bon bah nous on va, notre boulot c'est au sein du groupe Renaissance EPR de convaincre nos collègues, parce qu'ils se rendent bien compte que de toute façon il va falloir donner un gage à la gauche si on veut que décrocher un accord de non-censure, et les macronistes ont deux totems, la taxation des revenus et on va en parler, la réforme des retraites, et voilà. Donc c'est le choix entre un mâle ou un autre d'un point de vue macroniste, mais apparemment la taxation des ultra-riches, peut-être qu'il y a moyen de discuter.
Les informés, Adrien Beck, Renaud Dely.
Et toujours avec Stéphanie Despierres, journaliste politique à LCP, la chaîne parlementaire, Jean-Jérôme Bertolus, éditorialiste politique à France Info Télé, et Fanny Guinochet, éditorialiste économie du côté de France Info Radio. Nous l'avons évoqué en filigrane juste avant, Renaud Dely, la réforme des retraites, va-t-il falloir que Sébastien Lecornu la remette sur le métier?
Il va de toute façon devoir rouvrir d'une façon ou d'une autre le dossier, a priori c'est plutôt dans les tuyaux, mais certains du côté de l'exécutif évoquaient l'hypothèse de relancer le fameux conclave qui avait échoué sous François Bayrou, sauf que les partenaires sociaux n'en veulent pas et Sébastien Lecornu et Matignon visiblement ne penchent pas forcément de ce côté-là. Les partenaires sociaux des syndicats ont déjà fait savoir qu'il n'était pas question de relancer un processus aussi long et aussi complexe. En particulier Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, qui était l'invitée hier de nos confrères de France Inter.
Et je pense qu'il faut prendre au mot le nouveau Premier ministre qui nous dit qu'il va faire différemment, ok, mais ça veut dire qu'il faut penser différemment. Si les totems et les dogmes restent du côté du gouvernement, ça n'avancera pas.
Penser différemment, se montrer créatif, comme disait lui-même d'ailleurs Sébastien Lecornu, ça veut dire évidemment ne pas recommencer le conclave en question. Conclave qui avait échoué quand même en grande partie à cause de l'attitude du MEDEF sur notamment l'intégration des critères de pénibilité dans un accord que la CFDT en revanche semblait être sur le point de signer. La CFDT d'ailleurs sera reçue aujourd'hui par Sébastien Lecornu. Marie-Lise Léon doit donc le rencontrer. Comment est-ce que le nouveau Premier ministre va se dépatouiller en quelque sorte de cette réforme des retraites qui colle un peu au second quinquennat d'Emmanuel Macron? patron comme le sparadrap au capitaine Haddock.
Voilà, et précisons aussi qu'il a, Sébastien Lecornu, appelé, à peine nommé Frédéric Souillot, le patron de Force Ouvrière. Fanny Guinochet, il y a eu cette évocation, on va dire, dans l'air de relancer une forme de conclave. La CFDT dit hors de question.
Mais non,
comment on fait? Et d'ailleurs, et déjà, pourquoi, pardon? Et deuxième question, comment on fait?
Parce que la CFDT estime avoir, à juste titre, beaucoup poussé, participé au conclave pendant des mois. Ça a été compliqué en plus parce qu'elle est restée à la table des négociations alors que son homologue et concurrente CGT, elle, avec laquelle elle apporte dès le départ, je crois que personne n'a vraiment envie de refaire un remake de l'exercice. En revanche, ça ne veut pas dire que la CFDT, et là elle fait monter un peu les enchères, elle a raison, Marie-Lise Léon, ne va pas être sensible, surtout sur la pénibilité qui est quand même l'ADN de la CFDT. Ça fait 20 ans que la CFDT demande qu'il y ait une meilleure prise en compte des critères pénibilité. Donc s'il y a une voie de passage, la CFDT la saisira. Mais pour ça, il faut, Renaud Dely l'a rappelé, il faut qu'il y ait le patronat qui l'accepte.
C'est la question que j'allais vous poser. Le MEDEF, comment on fait
pour
peut-être
une tour un peu loin ? Effectivement, on peut le dire un peu crûment, a planté le conclave au printemps. Là, aujourd'hui, le MEDEF n'est pas dans la même disposition et c'est là-dessus que va jouer notamment Sébastien Lecornu.
Le MEDEF veut de la stabilité, peut-être.
Et c'est-à-dire que entre le moindre mal, peut-être mettre 3 critères ou 4 critères de plus de pénibilité et enfin les reconnaître depuis 10 ans. Qu'on en parle, c'est peut-être un mal moins dangereux finalement pour l'économie que de voir de nouveau un gouvernement tomber, un budget qu'on n'aurait pas et une situation, on vient de l'évoquer, politique extrêmement instable. Donc peut-être que là il y aurait une voie de passage. Il faut voir. La CFDT, elle joue sa partition et elle a raison. C'est un peu comme les socialistes qui mettent la barre haut pour obtenir.
Les socialistes qui disent, on les entend tous dire, ça va coûter cher, ça va coûter très cher, Jean-Jérôme Bertolus. Est-ce que les socialistes peuvent avoir quelque chose de, on va dire, très vindicatif sur la réforme des retraites? Ou est-ce qu'ils se disent, bon, à un moment donné, elle a été faite, on n'a pas trop le choix, c'est mieux qu'elle soit faite que l'inverse.
Non, c'est important, la réforme des retraites, pour les socialistes, a un double titre. D'une part, parce que cette réforme des retraites est honnie par les Français. Donc les socialistes, ils sont comme tout le monde, ils regardent un petit peu les sondages. Deuxièmement, c'était dans l'accord du nouveau Front populaire. Et même si c'est aujourd'hui une guerre des gauches quotidienne, c'est toujours les deux partenaires, le PS et la France Insoumise. Le PS ne veut pas donner des verges pour se faire battre par Jean-Luc Mélenchon, qui n'en a d'ailleurs pas besoin pour taper à bras raccourcis sur Olivier Faure. Donc, le PS demande toujours la suspension de la réforme des retraites, comme Marie-Lise Léon, maintenant la secrétaire générale de la CFDT.
Mais c'est pas forcément, c'est sans doute pas acceptable.
C'est
pour
pas
Sébastien
acceptable.
Lecornu.
Mais en revanche, il est clair que le nouveau Premier ministre va devoir donner des gages. Et comme vous l'avez dit, effectivement, des gages importants, parce que le compromis, ça va faire mal. Si compromis il y a, et il ne peut que y avoir un compromis pour Emmanuel Macron, pour éviter la dissolution, ce compromis, ça va faire mal. Donc sans suspendre l'économie de l'offre telle que effectivement l'a définie depuis 2017 Emmanuel Macron, il est clair que, par exemple, Sébastien Lecornu pourrait, dans le projet de loi de finances de sécurité sociale, réintroduire ces critères de pénibilité ou aller dans une, pour les femmes, dans une retraite moins contraignante.
Stéphanie Despierres.
Sur la réforme des retraites, c'est un marqueur du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour les députés macronistes, c'est très important parce qu'il faut se souvenir quand même qu'il y a eu des énormes manifestations, que eux, ils ont été critiqués, chahutés de toutes parts, que ce soit dans l'hémicycle ou dans la rue. Et ça, autant moi, je sens une évolution sur la taxation des ultra-riches, même si voilà, tout est dans les détails et c'est là-dessus.
Moins que sur les retraites.
Sur les retraites, je les sens beaucoup moins ouverts. En plus, il faut dire ce qui est, c'est que le groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale est plus à droite qu'il ne l'était. Avant 2022, toute son aile gauche n'est plus là. Donc voilà, et c'est vraiment symboliquement, ça reste voilà, c'est des députés, ça a été un énorme combat politique pour eux, le poids, il y a un poids politique à y renoncer et un poids de conviction et un poids de ils auraient l'impression d'avoir gaspillé énormément d'énergie, énormément de temps.
Et Emmanuel Macron lui-même.
J'allais vous dire, voilà. Il y a l'éléphant au milieu de la pièce aussi, quand même.
C'est pas un éléphant, c'est le président de la République.
C'est une expression, Renaud.
Voilà, d'accord.
Non, mais Emmanuel Macron voilà,
qui répète que cette réforme des retraites, elle est bonne pour l'économie. C'est sa conviction. De surcroît, revenir dessus, ça coûterait extrêmement cher. Évidemment, revenir à 62 ans, ça serait, aux yeux du chef de l'État, celui que vous qualifiez d'éléphant à l'instant.
Je vous en prie, je présente.
Ce serait évidemment hors de prix. Et puis, il y a aussi une forme d'hypocrisie ambiante, selon donc l'Élysée, selon le chef de l'État. C'est que quand on regarde, à chaque fois que la gauche est revenue au pouvoir, que les socialistes sont revenus au pouvoir, ils sont jamais revenus sur des réformes de retraite, des retraites oui. successives
qui
avaient
d'autres
été faites par la droite et qu'ils avaient combattues de façon absolument virulente lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Balladur 93, Raffarin 2003, Raffarin Fillon, Fillon 2010. Chacune de ces réformes de retraite, finalement, ils les ont combattues dans l'opposition et une fois au pouvoir, ils sont absolument pas revenus dessus, comme d'ailleurs, par exemple, en Espagne aujourd'hui. L'âge de la retraite s'apprête à l'horizon 2027 à passer à 67 ans en Espagne et le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez n'envisage pas de revenir sur cette réforme. Je pense qu'Emmanuel Macron a aussi cette conviction en tête.
Merci Renaud Dely pour cette explication extrêmement claire.
Je vous en prie.
Merci à vous Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste économie à France Info. On vous retrouve tous les matins 7h50. Merci Jean-Jérôme merci Bertolus, éditorialiste politique France Info TV et merci Stéphanie Despierres. Merci, vous êtes journaliste politique à la chaîne parlementaire. Merci à vous d'avoir suivi Les Informés. Restez sur France Info.